Il est 6h30 à Paris, merci d'écouter Radio France Internationale, 4h30 à Conakry et en temps universel. C'est l'heure d'Afrique Matin avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et l'actualité marquée ce matin, tout d'abord par de vives réactions en Guinée. Et
certains font part de leur choc, de leur incompréhension, quand d'autres se félicitent de la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef de junte Moussa Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité. Il est libre depuis vendredi soir, nous irons à Conakry pour entendre ses réactions dans quelques instants. Un bilan en RDC ensuite, celui de la compagnie aurifère lancée par le président Tshisekedi en 2023, la DRC Gold Trading, aujourd'hui à l'arrêt dans un Sud Kivu en guerre. 20 000 réfugiés centrafricains qui rentrent volontairement au pays. Une avancée pour le Haut Commissariat des Nations Unies que vous entendrez dans ce journal. Au sommaire également, une polémique au Kenya autour d'une chanson réclamant la démission du président William Ruto. Le nouvel an malgache ce week-end, tradition remontant au XVIIe siècle. Et sur les traces du célèbre guerrier anticolonial Wango au Gabon pour notre reportage du jour. Et puis l'actu sport, évidemment, comme tous les jours, vous êtes tous les bienvenus. Il a été libéré dès vendredi en Guinée et les images de sa sortie de prison ont fait la une des JT hier soir. Moussa Dadis Camara a donc bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya. Moussa Dadis Camara, militaire à la tête d'une junte entre 2008 et 2009. Il purgeait actuellement une peine de 20 ans de prison après sa condamnation en juillet dernier pour crime contre l'humanité. Ce crime, le massacre d'au moins 156 opposants réunis dans un stade de la capitale, Conakry. Alors, comment cette libération est-elle perçue sur place en Guinée? Sans plus tarder, petit tour de table avec Mouktar Ba.
Un samedi de joie dans la famille Camara à Conakry. Émotion également à Zérékoré, sa ville natale. Amadou Bari de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, une organisation de la société civile proche des autorités, salue ce qu'il appelle un geste humanitaire.
Ce geste fort du président général Mamadi Doumbouya est un acte salutaire pour nous les acteurs de la société civile guinéenne, surtout qui se bat pour la réconciliation et l'unification du peuple de Guinée.
Ce magistrat qui a souhaité rester anonyme rappelle que Dadis Camara a été gracié, mais sa condamnation tient toujours tant qu'une amnistie n'est pas votée.
Qu'une personne condamnée a commis un crime grave, la loi donne le droit au président de la République de prendre une mesure de grâce pour dispenser de cette personne-là de l'exécution de la peine. Faut-il rappeler, la peine reste enregistrée dans son casier judiciaire et produit tous les effets juridiques. Seulement, la personne ne reste pas en prison pour purger la peine.
Pour Rafi Ousso, le leader du parti d'opposition PRP, le cas d'Adis Camara doit servir de leçon.
Je souhaite fortement que ça lui a servi d'exemple et qu'il sera un conseil du général Mamadi Doumbouya dans le sens de respecter ses engagements et l'achat de la transition.
Au sein de l'opposition, certains s'interrogent sur les motivations des autorités et leur volonté de s'attirer la sympathie de la Guinée forestière. La libération du capitaine Moussa Dadis Camara suscite également de l'inquiétude dans les rangs des victimes du 28 septembre. Nombre d'entre elles avaient témoigné à visage découvert. Mouktar Ba, Conakry, RFI.
Et direction la RDC maintenant sur RFI pour un bilan dans le secteur des entreprises avec la société DRC Gold Trading SA, anciennement Primera Gold. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que cette compagnie a été lancée en grande pompe en janvier 2023 par le président Tshisekedi en personne, dans l'objectif d'assainir la production d'or congolaise et générer des revenus officiels en limitant la fraude. Mais aujourd'hui, cette société, issue d'un partenariat avec les Émirats Arabes Unis, est littéralement à l'arrêt dans le Sud Kivu, province partiellement sous le contrôle de l'AFC M23. Et cela représente un manque à gagner certain, Patient Ligodi.
Cette société devait permettre à la RDC de reprendre le contrôle sur l'or artisanal, en particulier dans l'est du pays, selon le gouvernement. Les premiers résultats ont été jugés encourageants. Dans la province du Sud Kivu, avant l'arrivée de la société, environ 25 kilos d'or artisanal étaient exportés officiellement chaque année. Un an plus tard, 5,6 tonnes avaient été exportées, générant environ 500 000 dollars de recettes selon des documents et sources consultées par RFI. Pour cette année, l'objectif était de 12 tonnes. Mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Selon ses dirigeants, DRC Gold Trading ne sera plus en mesure de récupérer les 10 tonnes d'or attendues cette année dans le Sud Kivu, en raison de l'occupation d'une partie de la province par l'AFC M23. Pourtant, l'exploitation artisanale continue, affirme plusieurs sources, mais les revenus ne transitent plus par les circuits officiels. Comment cette filière est-elle gérée actuellement dans les zones contrôlées par la rébellion? C'est l'une des questions que devaient poser des experts des Nations Unies cette semaine lors d'une mission sur place. Mais cette mission a été annulée par l'AFC M23.
patient Ligodi. La lutte contre la résurgence du groupe État islamique en Somalie et de nouvelles frappes américaines menées dans la région semi-autonome du Puntland, annonce de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, qui affirme avoir tué de multiples combattants. Au Soudan, la promesse du général Al-Bourhan, qui annonçait cette semaine la reprise totale de Khartoum par l'armée, eh bien, il affirmait hier que la guerre face aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti ne s'arrêterait que lorsque ces derniers baisseraient les armes. Pour mémoire, en face, les FSR affirment également cette semaine qu'il n'y aura pas de reddition de leur part. Cette guerre au Soudan entrera le mois prochain dans sa troisième année. Insatisfait du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En Centrafrique, le retour volontaire de quelques 20 000 réfugiés qui avaient fui hors des frontières du pays vers le Cameroun, vers la RDC ou le Congo-Brazzaville. Ce retour, c'est la plus grande réussite pour le HCR depuis le début d'un programme sur place en 2017. Elle a été rendue possible par l'amélioration de la sécurité, bien sûr dans les zones de retour, mais aussi grâce à la mise en place en 2023 d'une plateforme d'appui pour les investissements dans les infrastructures sanitaires, scolaires, dans l'accès à l'eau ou encore le logement. Cela porte donc ses fruits, comme nous le relate ce matin Gloria Ramazani, chargée des relations extérieures du HCR à Bangui.
Jusque-là, en fin 2023, la moyenne de nombre de rapatriés nageait entre 6 et 8 000 personnes et donc le rapatriement était assez lent. Jusqu'en fin 2023, il y avait environ 700 000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins et au rythme de 8 000 personnes, cela nous aurait pris plus de 100 ans à rapatrier les personnes. Grâce à la plateforme et aux activités qui sont en train d'être mises en œuvre sur terrain, notamment à travers ce que nous appelons les pôles de développement. À la fin 2024, nous avons rapatrié à peu près 20 000 personnes et pour 2025, notre objectif est de pouvoir atteindre 40 000 personnes qui pourront rentrer. Et dans les planifications que nous avons, c'est d'ici 2028 à rapatrier au moins 300 000 réfugiés centrafricains, donc presque la moitié de ceux qui se retrouvent encore en exil. Mais cela nécessite en fait les moyens, nécessite des investissements importants.
Gloria Ramazani du HCR en Centrafrique. Un slogan, une chanson qui heurte directement le président kényan. Un appel à la démission porté par les paroles « Ruto must go »,« Ruto doit partir » en français. Chanson née lors des manifestations dirigées l'an passé contre le gouvernement, mais elle continue à courir dans la société comme un bruit de fond. Le week-end dernier, notamment lors d'un match de foot dans un stade de Nairobi. Mais c'est un risque d'anarchie, selon le chef d'état-major des armées kényanes qui a mis en garde cette semaine. Un avertissement qui n'est lui non plus pas passé inaperçu, récit d'Alban Tiroir.
Intimider les Kényans, c'est le titre du quotidien The Standard qui rapporte les propos du chef d'état-major des armées, des propos qui ont provoqué la colère des Kényans sur les réseaux sociaux. Le hashtag Ruto must go a été propulsé en tendance sur X, demandant la démission du président. Le chef d'état-major des armées avait souligné qu'un tel départ devrait se faire conformément à la Constitution. Il a appelé les Kényans à exercer leurs droits en respectant certaines limites, afin, je cite, de ne pas aller jusqu'à déchirer le pays. La Commission kényane des droits humains dénonce une attaque flagrante contre les droits constitutionnels, la liberté d'expression notamment. L'opposante Martha Karua, elle, juge perturbant de voir le chef d'état-major des armées commenter un débat politique. Selon elle, les appels Ruto must go sont l'expression de l'opinion de la population et doivent être pris en compte. Depuis les manifestations de l'an dernier, le slogan est devenu courant dans beaucoup de rassemblements, même sportifs et culturels. L'analyste politique Dismas Mokwa y voit une illustration du ressentiment général qui prouve la population à l'égard de la classe politique, une colère face à la crise économique qui perdure et un sentiment de promesses non tenues. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Une fête traditionnelle à Madagascar. Les descendants des grandes familles royales se sont réunis hier soir à Antananarivo afin de célébrer le nouvel an malgache, une tradition qui remonte au XVIIe siècle. Sur les hauteurs de la capitale, au pied du palais de la reine, les descendants des grandes familles royales ont ouvert les festivités par un rituel de purification. Sur place, reportage signé Guilhem Fabry.
C'est avec les chants et danses traditionnelles du peuple merne que s'est ouverte la cérémonie du Taum Baovao Malagasy, le nouvel an malgache. Vêtus de leurs costumes royaux, les dignitaires sont venus allumer un feu de purification. Ce rituel doit être synonyme de renouveau dans les foyers pour le pays, explique Henri Ranjadzatouv, descendant de la famille royale merne.
Le feu, c'est la lumière. La lumière chasse la peur. Il chasse les mauvaises rancunes de notre cœur aussi. L'esprit maléfique, c'est ce qui était mauvais en nous l'an passé. Donc avec le feu, on s'éveille, on a la chaleur. C'est ça la philosophie.
Ces anciennes familles royales, qui conservent encore aujourd'hui une grande influence dans les affaires politiques et sociales, possèdent chacune des rituels spécifiques. Mais pour la deuxième année consécutive, elles ont choisi de fêter ensemble le Taung Bao Bao, une façon de symboliser l'unité des 18 ethnies qui composent le peuple malgache, explique la princesse Fenosour Atimamonga.
On ne peut pas avancer sans que nous soyons unis dans notre us et coutumes. Les jeunes doivent prendre l'exemple de ce que nous faisons, la tradition va se perpétuer. Tant qu'il y a un malgache vivant, ça ne disparaîtra jamais.
Hier soir, les dignitaires ont demandé à l'État que le nouvel an malgache soit déclaré jour férié pour entretenir cette tradition. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et ces festivités du Nouvel An malgache, elles se poursuivront jusqu'à demain, lundi, à travers tous les sites royaux de la grande île. À Antananarive, justement, il est 7h passées de 41 minutes.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr, sur la radio du monde. RFI Matin avec Julien Coquelin-Rohem débutera dans un peu plus de 12 minutes. Quant à nous, nous partirons d'abord au Gabon, dans les pas d'un guerrier de la lutte anticoloniale, le guerrier Vango, originaire de Latourville, où nous irons pour notre reportage. Nos chemins d'écriture, après cela, notre chronique littéraire, entretien de Tirtan Karchanda avec l'écrivaine réunionnaise Gaëlle Bellem, sélectionnée pour le Booker Prize anglais, l'équivalent du Goncourt britannique, avec son roman Le Monstre est là, derrière la porte. Un événement pour nous mettre à l'honneur les artisans d'art. Les journées européennes des métiers d'art débuteront demain. Et à cette occasion, notre chronique 100% création nous présentera le travail, le talent de Sofiane Amsadek, artisan verrier, souffleur de verre. Mais d'abord, on me souffle que c'est l'heure des sports.